la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous n'avons pas mis le teaser du spectacle Germanicus et la colère barbare en générique, mais vous allez bientôt l'entendre. Et vous allez surtout entendre Eric Darce. Bonjour Eric.
Bonjour Sylviane.
Nous parler du prochain spectacle, Germanicus et la colère barbare, dans les arènes de Nîmes, un lieu exceptionnel, privilégié, les 3, 4 et 5 mai. Vous pouvez vous renseigner aux arènesdenimes.com ou à adamconcert.com pour avoir les billets, les places. Et je signale tout de suite que EDIS a la gentillesse d'offrir à nos auditeurs 12 places que vous pourrez gagner en écoutant les émissions 10 minutes avec Chanel. Donc, soyez attentifs pour gagner donc 12 places en tout pour ce spectacle. Alors Eric, vous êtes co-scénariste pour la deuxième année.
Oui, c'est ça.
Avec Michael Grenat.
Toujours pareil, le même duo.
Le même duo et je dirais même un même trio, puisqu'il y a Fabien Faisan qui est là aussi depuis les débuts pour la musique.
Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Donc c'est le trio qui gagne. Et il a fallu trouver donc un sujet nouveau, Germanicus. Alors pourquoi Germanicus? Comme nous l'indique l'affiche, c'est soit romain, soit barbare, c'est une confrontation.
Ça va être les deux à la fois. Alors pourquoi Germanicus? Est-ce que c'est un personnage qui est important dans l'histoire romaine? Non pas forcément pour les actes qu'il a faits. Même s'il a agi sur plusieurs champs d'opérations militaires surtout, mais parce qu'il représente dans l'esprit des auteurs anciens, de nos sources, comme le Romain parfait. c'est même l'empereur parfait. Enfin, s'il avait été empereur, ça aurait été l'empereur parfait. D'ailleurs, on peut même se demander s'il n'a pas été parfait, justement parce qu'il n'a pas été empereur. Mais ça, c'est encore autre
le
chose.
Le pouvoir corrompt, c'est bien
voilà,
connu.
Voilà, c'est ce que l'on dit. Mais il est vrai que Germanicus concentre, quand on lit les sources, pratiquement toutes les qualités qu'un être humain peut avoir. Il est quasiment parfait. Mais malheureusement pour lui, il a un tonton qui est Tibère et qui est lui
loin d'être parfait
et comme beaucoup souvent dans les histoires il y a toujours un méchant tonton, allez savoir pourquoi. Et là celui-ci disons qu'il le regarde un peu de travers et d'après la rumeur, notamment la rumeur, la femme de Germanicus, ce fameux tonton aurait empoisonné son neveu. Mais ça...
Donc vous vous êtes emparé de ce sujet, donc Germanicus, pour faire un spectacle d'1h45, 1h50.
C'est cela.
Une histoire vivante avec beaucoup de sources historiques. Hein. Je rappelle que vous êtes historien, donc ce n'est pas n'importe quoi.
Non, on essaye.
Il y a des obligations, bien sûr, du spectacle vivant. Il faut, en plus, la scène est très, très grande. Hein, donc, il faut que tout le monde dans ce magnifique amphithéâtre voit à peu près tout et comprenne tout, même de loin. Alors, comment vous avez construit on peut dire un scénario? Combien de scènes? On sait que chaque année, vous découpez avec un rythme, bien évidemment. Il faut penser au décor, au changement de décor, il faut changer aux respirations, il faut changer penser aux animaux, aux cascadeurs, etc. Alors, comment vous l'avez construit?
Alors, d'abord, on l'a construit en s'appuyant sur les sources, comme vous venez de le dire, Sylviane. Donc, déjà, c'était très important. Et puis, de ces sources, essayer d'en faire une histoire intelligible en 1h45 par un public qui n'est pas forcément un public d'historien. Ça, c'est une première contrainte. et pas des moindres. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'on a choisi la narration, en fait, de ce qu'on va essayer de raconter, qui correspond à l'histoire qu'on veut raconter, eh bien, on fait le découpage et on prend bien sûr en compte ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les changements de décor. Avec une volonté, c'est que les décors sont bien là pour servir l'histoire et non pas l'inverse.
Ouais.
Voilà.
Et puis une autre contrainte, qu'ils soient changés rapidement, ou pas trop longuement.
Alors, pas trop longuement. Alors après, c'est des choix. Effectivement, plus ils sont changés vite et plus le rythme est conservé. Mais en même temps, la mise en place de décors, elle peut être scénarisée
et elle
peut faire partie du spectacle. Alors après, c'est juste vraiment un juste milieu à trouver.
Oui, mais bon, le public, je dirais, est un bon public. Hein, donc, de toute façon, il y a de quoi regarder. Hein, je veux dire que
oui,
même
oui.
si même s'il y a quelques petits temps morts, bon, on peut s'occuper largement en regardant un petit peu tout cela.
Et oh puis, oui.
Je me souviens, l'an dernier, le ramasseur de crottins avait un succès fou.
Oui. Mais ils ont, curieusement, d'ailleurs, ils ont souvent un succès fou, ce qui est très bien.
Et puis, les femmes qui lancent du pain ou bon, des As de Nîmes, tout ça, bon, ça fait partie, comme vous venez de dire, de la scénarisation. Alors, vous avez découpé donc en 8 scènes. Il y a une évolution, il y a une montée ou il y a plusieurs...
Alors, oui, il y a une évolution.
Il ne faut, enfin, faut pas dévoiler.
Le problème, encore une fois, en s'appuyant justement sur les sources historiques, c'est qu'on n'a pas, si vous voulez, une narration qui est celle artificielle, si je peux utiliser ce mot-là, qui est celle d'un scénario inventé de toutes pièces, avec un nœud gordien, voilà, et puis hop, à partir de ce moment-là, le point ultime qui finit par aboutir à ce que l'on veut. Mm-hmm. Donc ça, c'est pas possible. On suit, nous, notre source, notre fil directeur. Mais il y a effectivement une montée en puissance entre, on va dire, la première scène, qui est une scène assez forte, dont je ne dirai pas plus, une scène très très forte, et d'ailleurs à la fin, où il y aura, je pense, une assez forte émotion, et puis en fait l'arrivée de Germanicus et la traque qu'il va faire d'Arminius, Arminius étant, pour les gens qui ne le savent pas, étant d'abord un Germain qui a été envoyé à l'âge de 10 ans avec son frère, être éduqué comme citoyen romain à Rome, directement même dans le Palatin, c'est-à-dire dans le palais d'Auguste, et qui non seulement va être bien éduqué, mais va devenir citoyen romain pour Arminius, et en plus va être élevé au rang de chevalier, ce qui est quand même un immense honneur, et ce qui est assez rare. Et malgré tout cela, malgré ses bons services, malgré ses, on va dire, ses retours du monde romain, Arminius, qui va être envoyé par Auguste lui-même pour aider, Varus, le gouverneur romain en Germanie, a réglé un peu les problèmes, eh bien, va changer de camp. Alors, on ne sait pas si c'était prémédité.
Il a été payé
Si c'était par ambition personnelle, si ça a été par idéologie, on ne le sait pas. Toujours est-il, c'est ce qu'il va le faire. D'accord. Et qu'il va trahir les Romains et ils vont le sentir passer.
Ah. Alors, on sent quand vous écrivez, quand vous avez écrit avec Michael le scénario... On sent que vous avez été, que vous êtes acteur là-dedans, donc partie prenante, que vous avez été pendant des années sur la piste, sur l'arène, et ça vous permet de prendre en compte une écriture très adaptée, en fait. Vous avez, quand vous écrivez, vous pensez déjà aux scènes à faire.
Alors, on pense déjà aux scènes à faire, on pense aussi à la théâtralisation qu'on a ajoutée ces dernières années, de façon à rendre le spectacle plus ludique, plus vivant, tout en étant explicatif. Ce n'est pas des dialogues fonctions, mais permettre, en fait, par le jeu des acteurs, à comprendre un peu plus le contexte et les enjeux de cette histoire.
De toute façon, il y a une petite brochure qui est donnée à l'entrée. C'est tout de même bien de lire les quelques lignes pour comprendre un petit peu ce qui se passe entre les différents éléments. Alors, le titre, c'est Germanicus et la colère barbare. Dans le petit teaser que l'on trouve sur les réseaux sociaux, vous m'aviez dit en riant, il y a beaucoup de grognements des barbares, mais il n'y a pas que cela, donc je vous propose... Ils ne font pas grogner, les barbares.
Non.
Donc, je vous propose qu'on écoute cette petite bande-annonce.
Freya est entrée en moi. Sa lumière m'a montré notre destin. J'ai entendu des cris. J'ai vu les temples d'un empire s'effondrer. J'ai senti l'odeur de la victoire. Rome ne va pas mourir. Rome va disparaître.
Ah, nous avons écouté cette bande-annonce. Bon, bien sûr, on n'a pas les images. On s'en rend compte déjà un petit peu avec l'affiche qui met face à face les Romains et les barbares. On reparlera de cette affiche avec la véracité. Vous tenez à dire que la tunique et véridique, et d'une copie d'origine.
Alors, c'est pas une copie d'origine, elle s'inspire de la jeune fille d'Ashgate.
Je me suis mal exprimée.
Voilà, mais parce que.
une copie d'origine.
Mais moi, j'aurais bien aimé, mais justement, ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que beaucoup de gens la trouvent beaucoup trop moderne et contemporaine.
Et non,
pourtant,
mais ça prouve que...
et voilà, non, mais elle a plusieurs milliers d'années.
et vous en êtes inspiré pour les
voilà,
costumes.
Voilà.
Et donc, ça permet de parler, là maintenant, de la costumière, hein, Camille Lafuite. Qui
fait.
Doit gérer des centaines et des centaines de tenues. Mmh. Ça permet aussi de parler des ministries, parce que ce spectacle ne pourrait pas avoir lieu sans les bénévoles, qui vont surtout souvent plusieurs rôles. Mmh. Et donc, à chaque changement de scène, de décor, ils changent de tenue. Donc, c'est une organisation... de haut niveau, hein, il faut...
Ah oui,
les quiz valent la peine. Hein,
les bénévoles sont extrêmement importants dans la mesure, d'ailleurs en plus, ils représentent à peu près 80% des personnes qui agissent sur l'événement, hein, puisque les troupes, pour l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité,
sont des reconstituteurs,
donc des bénévoles. Les ministries, qui sont une bonne centaine, quand je dis une bonne centaine, ils dépassent largement le chiffre de 100, sont aussi bien sûr des bénévoles, donc plus sans compter, je prendrai par exemple tous les étudiants de BTS Tourisme de Saint-Vincent-de-Paul qui interviennent aussi, soit pour placer les gens, soit pour aider aux déambulations. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles. Et sans eux, il n'y a pas de spectacle.
Il n'y a pas de spectacle. Donc un engagement qui fait cette communauté vraiment pour aboutir à ce spectacle. On a parlé de la costumière, on a parlé des cascadeurs. Le responsable, c'est Orek.
Hein, oui, Orek de Bruyne. Alors, c'est tout le staff. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a présenté le trio. Oui, en fait, je dirais que c'est pratiquement le trio des dinosaures, ceux qui sont encore là. Mais parmi tous ceux qui sont là aussi depuis très longtemps, il y a Orek de Bruyne qui s'occupe des cascadeurs et qui rassemble tout l'équipage équestre en même temps.
C'est important, hein, l'arrivée des chevaux. À plusieurs reprises, on sent une émulation. Ils font des trucs extraordinaires.
Hein, ah oui, non, mais ça
parce qu'il y a la distance, il y a la vitesse.
Ça plaît au public, ça plaît aux enfants. C'est d'abord un spectacle pour les enfants, il ne faut pas l'oublier.
Oui.
C'est la première cible, si on peut me permettre de m'exprimer ainsi.
Et puis les décors, vous en parliez tout à l'heure. Hein, donc, on va les découvrir cette année parce que bon, il y a des choses qui sont réutilisées, mais il y a aussi des choses nouvelles. Et cette année, ce qui est tout à fait nouveau, c'est le village germain.
Le village germain, c'est cela.
L'arbre de vie aussi.
L'arbre de vie, l'Yggdrasil, qui va être assez important normalement, enfin on espère, et puis que ça va réussir à rentrer tout ça dans l'arène. Et puis, il va y avoir aussi des décors sur le mur, ce qu'on appelle le Baltéus, le mur de la piste, qui vont symboliser les lieux où se passent les scènes. Ça, c'est une grande nouveauté.
D'accord. Parce que les spectacles d'été, il y a des projections qui animent en fait ces murs. Mais là, ça sera carrément comme des grandes fraises, tapisseries.
On essaye de respecter, encore une fois, l'esprit de 122. Donc, si on avait mis des projections, ça n'aurait pas été tout à fait correct.
Ouais,
même si parfois, on en meurt d'envie. Hein, mais donc, ça sera les tentures.
Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait de l'archéologie expérimentale, parce que ça ne serait pas possible dans un spectacle comme ça. Mais on essaye de s'approcher tout de même le plus possible d'une certaine véracité.
Alors, oui, parce que l'archéologie expérimentale, ça demande un protocole d'analyse, de recherche, une lecture scientifique. Mmh. Et donc, c'est même très sec, si vous voulez. On peut faire de l'archéologie expérimentale en jean et en basket. C'est pas l'objectif.
Oui.
Après, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on pouvait dire la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche, si on me permet cette grande différence, la recherche fondamentale, ce serait l'archéologie expérimentale et la recherche appliquée, c'est la reconstitution, l'histoire vivante.
Oui.
C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'archéologie expérimentale pour pouvoir présenter au public quelque chose qui va lui être intelligible et qui va lui parler. Et dans le spectacle, on essaye autant que faire se peut, en prenant bien sûr compte qu'on ne peut pas... tous les équipements sont des équipements qui sont véritablement historiques, faits par les troupes. Mais par exemple, il y a des décalages chronologiques entre certains qui sont républicains, certains qui sont en impériaux. Mmh. Et ça, c'est pas de notre volonté. C'est simplement parce que il n'y a pas assez de troupes pour pouvoir faire le... Voilà.
Donc, insistons, c'est un spectacle vivant, c'est une histoire vivante qui plaît beaucoup. Je ne me souviens plus, mais on est à peu près 10 000 spectateurs par spectacle, à peu près. Hein.
Oui, oui,
donc,
oui.
Sur 3 jours, ça peut faire 30 000 personnes. Et les billets sont partis très vite. Et je rappelle à nos auditeurs, écoutez 10 minutes avec pour pouvoir gagner 12 places, c'est-à-dire 6 fois 2 places, où on est bien placé et on apprécie donc ce spectacle. On n'a pas parlé de la direction d'acteurs, parce que tout ce monde-là... qui n'est pas là en même temps, sauf le défilé final. Je pense que vous gardez ce défilé final.
Là aussi, il y aura une petite, nouveauté. Mais donc, c'est un peu rageant, c'est vrai, mais il y aura une nouveauté. Il y aura un défilé final, mais pas de la même façon qu'on le fait chaque année.
Il faudra attendre 1h45
pour le voir. Exactement.
Alors, le directeur d'acteurs, c'est Grégoire Aubin.
Oui, Grégoire Aubin.
Il y a beaucoup de travail, j'ai l'impression. Hein.
Alors, Grégoire se concentre justement sur les acteurs proprement dit, qui eux, par contre, sont des professionnels pour une grande majorité, pas tous, hein, puisqu'on reste toujours dans l'ADN, c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'utiliser au sens propre du terme des reconstituteurs de la région, notamment de l'association la Lorica Romana, la 10 de Combes. Donc on se sert de ces des compétences et des qualités de tout le monde.
Oui, mais acteur, bon, c'est un jeu qui, et surtout, je le disais tout à l'heure, la distance, c'est-à-dire qu'être acteur, c'est une chose, mais être compréhensible de loin, de toutes les directions possibles, ça demande vraiment une concentration corporelle.
Alors, c'est pour ça qu'on prend, on fait appel à des professionnels pour justement les rôles-titres comme Germanicus, Arminius, Agrippine, Thusnelda. Ce sont des acteurs professionnels. Et Grégoire, dont c'est le métier en premier, est donc chargé de diriger ces acteurs. C'est surtout son rôle premier et de les intégrer, bien sûr, dans l'histoire. Bon, on en discute, bien sûr. Si vous voulez, c'est quelque chose, un travail en collectif. Mais c'est Grégoire qui est chargé justement de diriger ses acteurs. Il est en train de le faire d'ailleurs en ce moment.
Et puis, il faut savoir que tous les reconstituteurs qui viennent aussi de l'étranger, enfin d'Italie, beaucoup, ou de certains pays de l'Est, je crois aussi. Non, pas cette année.
Il y avait la Croatie, mais cette année, certains sont blessés, donc ils ne peuvent pas être là. Donc, il y a l'Italie, c'est certain. On a une grande partie de la France. Et puis, quelques Suisses et Allemands.
D'accord. Donc, ils viennent bien. Alors, ils répètent chacun chez eux.
Oui.
Et puis, dans la générale, parce qu'il y a une générale, hein, c'est la première fois, à la limite, qu'ils se retrouvent presque tous ensemble.
Oui.
Et qu'il faut ajuster les derniers, les derniers mouvements de troupe.
C'est ça, c'est la construction du Lego. C'est en pouvoir faire de la publicité pour la marque scandinave.
Là où on voit où ça ne fonctionne pas.
Oui, c'est, en général, souvent le soir, on est un peu désespéré et on s'est dit pourquoi on a fait ce truc-là. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le lendemain, ça fonctionne.
La nuit a porté conseil. Voilà. Et puis, il y a cette émulation, je parlais de l'émulation du public, il y a aussi l'émulation justement de ces reconstituteurs qu'on ressent en tant que spectateur.
Et ce qui explique aussi souvent que cette générale ne se passe pas aussi bien qu'on le voudrait, c'est que beaucoup des troupes, notamment italiennes, quand ils arrivent, ils ont 20 à 22 heures de bus pour certains.
Oui,
dans
ils
ne
sont
pattes.
Pas au mieux de leur forme.
Ils ne sont pas franchement au mieux de leur forme, non.
Et puis ils amènent leur équipement, parce
tout
que,
à fait.
Il faut noter, ce sont des bénévoles, mais qui achètent leur propre équipement et qui eux-mêmes font leurs recherches en groupe. Et donc, c'est un travail, ils ont beau être bénévoles, c'est un travail vraiment de recherche et un travail à l'année. Alors, on va vous demander, Eric, parce qu'on vous voit chaque année sur la scène, on va vous demander bien sûr ce que vous faites. Mais avant, on se plonge dans un autre grand spectacle, là, qui est au cinéma. Alors, le cinéma, ça a une autre dimension. Une série que tout le monde connaît, qui est Rome. Alors sur Radio Alliance Plus, vous commencez à presque tout savoir, enfin presque, du spectacle Germanicus et la colère barbare. Éric Darce, donc, pour vous en parler, un des co-scénaristes avec Michael Grenat, la musique de Fabien Faisan et toute cette équipe. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur ce travail d'équipe, sur les reconstituteurs, sur les ministries. Et alors vous, vous faites quoi cette année, Éric ? Vous êtes romain ? Vous êtes barbare ? Vous êtes
les deux ? Je suis toujours romain. Je dirais presque que c'est un contrat avec la mairie et avec la société EDIS. Je suis romain. En fait, dès l'instant que j'arrive sur la piste, je deviens romain et j'ai la mentalité d'un romain, ce qui explique souvent que je peux être odieux avec plein de gens.
Voilà. Et vous aimez ça.
Et j'adore ça. Ça tombe bien, j'adore ça. Voilà. Donc, je peux me cacher derrière ça, c'est parfait.
C'est le point de vue romain.
Hein. Ah oui, forcément.
Ce spectacle est du point de vue romain, donc il ne cherche pas l'objectivité. Non. Et c'est vraiment un point de vue.
Hein. Alors, en fait, on raconte l'histoire telle que nous l'avons dans les sources, autant que faire se peut. Mm-hmm. Le côté non objectif, c'est moi.
Voilà. Vous en prenez l'entière responsabilité.
Michael
est d'accord. Tout le monde est d'accord.
Oui. C'est mon rôle, en fait.
Mm-hmm. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. Vous êtes romain.
Oui.
Et vous êtes qui ?
Je suis le Praeco. Alors, c'est un personnage qui existe réellement dans les arènes romaines, dans l'amphithéâtre romain, sauf qu'il n'a pas vraiment la même fonction que moi. Le pauvre, je pense, sinon il aurait pu te voir. En fait, ce sont très souvent des chanteurs ratés, des gens qui avaient des gros coffres, mais qui peut-être n'avaient pas les qualités nécessaires, et qui annonçaient le nom des gladiateurs et le nombre de victoires. Et ça se cantonnait là. Mais il fallait quand même avoir un sacré coffre qu'on le faisait, par exemple, dans le Colisée avec 40 000 personnes. Hein. Et il se mettait d'ailleurs un endroit assez précis qui correspond au libitina, c'est-à-dire les petites portes qu'on a...
Sur le mur, et puis peut-être au niveau de l'acoustique, ils avaient étudié.
Voilà.
Vous avez un micro.
Et moi, oui, parce que moi, j'en dis beaucoup plus. j'en dis énormément, ce qu'on n'aurait jamais fait un pré-écho.
Ouais.
Donc voilà,
vous expliquez aussi... les actions, vous expliquez le déroulement pendant les changements de décor, vous... Alors, dire, il faut meubler, c'est pas vraiment meubler, mais il faut
mais
tout de même...
Ça en fait partie, parfois ça en fait partie. J'ai quelques anecdotes où j'ai meublé vraiment un certain temps.
Avez les yeux partout, vous voyez ce qui marche pas. Nous, on s'en rend peut-être pas compte, mais s'il y a un petit problème de décor, un petit problème de...
Oui, mais c'est surtout, ça vient de la zone technique où je les vois s'exciter et me faire des grands gestes. Et là, j'ai compris qu'il faut que je continue.
Allez, raconte.
Voilà, là, et après, ils me font le geste, tu peux arrêter. Bon. Mais parfois, ça peut être long des fois.
Peut
être long, mais ça l'est de moins en moins, c'est vrai. Alors, l'objectif premier, effectivement, c'est de faire un lien entre les changements de scène et les changements de décor, mais c'est surtout à chaque fois de recontextualiser et d'expliquer autant que faire se peut ce qui se passe, sans pour autant dévoiler non plus ce qui va se passer. Voilà.
Oui, parce que là, bon, on ne connaît pas les scènes et je ne vais pas vous demander de les raconter parce que dans chaque spectacle, ça va être différent. Mais je me rappelle toujours, est-ce qu'il y a une scène funéraire, par exemple, cette fois-ci ?
Alors,
parce que la scène funéraire est très émouvante en général.
Alors, la scène funéraire, c'est-à-dire quand les morts vont vers le Styx et vont vers les enfers. Non, pas cette année. Nous avons choisi cette année de jouer véritablement le rôle à fond, c'est-à-dire que les acteurs, enfin en tout cas les légionnaires qui sont dans l'arène et qui vont combattre contre des barbares qui font aussi initialement partie en fait de l'escorte impériale d'Adrien, eh bien sont les acteurs. Donc comme ils ne sont pas morts, on les fait se relever directement et avec énergie.
Voilà.
Cette année, on a décidé de tenter ça, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas autre chose l'année prochaine.
Oui, il y avait un petit garçon à côté de moi qui disait « Mais ils ne sont pas morts, ils se relèvent
!» C'est le but aussi.
C'est de la fiction, c'est du spectacle. C'est très bien.
À ce sujet, on a une anecdote justement où on avait assassiné César et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il n'était pas revenu pour saluer le public et beaucoup d'enfants étaient persuadés qu'on l'avait vraiment tué.
Ah, oui.
Donc, voilà.
Non, tout de même pas, hein, vous n'êtes pas méchant. Là, ça reste que du spectacle.
Oui, oui.
J'aimerais que vous nous donniez, vous qui avez fait ça pendant des années, cette année, donc Germanicus, la colère barbare, je ne vous demande pas de nous raconter l'histoire, donc il faut prendre ses places et regarder. Qu'est-ce qui vous motive le plus profondément, vous, dans ce travail, dans cette réalisation ?
Alors, il y a, je dirais plusieurs choses. Un, le travail en équipe. Vraiment, l'ambiance qu'il y a, même si parfois, on s'engueule, ça nous arrive, mais on rit quand même beaucoup, ça c'est le plus important. Et puis, la deuxième chose, c'est le plaisir du public et surtout le plaisir des enfants. Voilà. Les émotions qu'on peut donner et, au final, parce que je reste quand même historien, avoir envie d'aller plus loin. Parce qu'il est évident qu'on ne raconte pas l'histoire complète en 1h50, et donc donner aux gens l'envie de s'intéresser à.
Alors, je sais que vous êtes romain, donc vous avez votre sympathie pour les Romains, mais nos barbares, on va peut-être les aimer aussi, peut-être, je ne sais pas.
Ah, mais j'espère bien. Je conseille au public de les aimer beaucoup, parce que moi, par contre, je vais les détester profondément.
D'accord, donc pour équilibrer, pensez à ces barbares qui sont peut-être pas que des barbares.
Non.
C'est des êtres humains. Merci à vous, merci encore à Edéis pour nous donner des places, et surtout, bon spectacle à tous. Face à Germanicus et la colère barbare. Merci Eric.
Merci Sylviane.